Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
14h02 sur RMC, on va s'intéresser au test du jour. Ce test, il est lancé par l'agglomération de Pau en partenariat avec Pôle emploi. L'idée est de conditionner l'obtention du RSA à au moins 15 heures d'activité. Pôle, ça va être quoi ces activités?
Oui, alors déjà cette mesure, elle va entrer en vigueur dans 18 départements en phase de test, comme à Pau à partir de la semaine prochaine. Et ce programme, il permettra de mettre en place des référents, des coachs personnalisés qui proposeront aux bénéficiaires entre 15 et 20 heures d'accompagnement par semaine. Au programme de ces accompagnements, des cours de français, des ateliers d'informatique, des formations, des stages en entreprise ou dans des associations culturelles ou sportives. L'objectif, c'est de ramener les bénéficiaires du RSA dans le monde du travail, explique le gouvernement. Une manière de retrouver pleinement sa dignité et sa place dans la société. Aujourd'hui, en France, 40% des allocataires du RSA sont inscrits à Pôle emploi seulement. Le but de cette mesure, c'est d'atteindre les 100%. Si les différents tests sont concluants, le dispositif sera ensuite élargi à l'ensemble des bénéficiaires. Mais attention, il n'y aura pas d'activité obligatoire. L'idée, c'est d'avoir un suivi renforcé, précise le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Un dispositif qui, avant même d'être mis en vigueur, fait déjà polémique. Le président du département de Seine-Saint-Denis a annoncé lundi qu'il refusait la mise en place de ce RSA sous condition, dénonçant une grave entorse à la République.
Alors, travailler pour toucher le RSA, d'accord, pas d'accord. Pierre-Édouard Magnan, vous qui êtes président du Mouvement National des Chômeurs et des Précaires.
Je ne vais pas vous surprendre, je suis évidemment pas d'accord.
Et pourquoi ?
On reviendra sur le cas précis de Pau, puisque, vu ce qu'a d'ailleurs expliqué Paul, on constate en fait qu'on n'est plus tout à fait sur « il faut travailler pour toucher le RSA ». Dans les faits, c'est plus tout à fait ça, et d'ailleurs ça montre plutôt les lacunes totales de l'accompagnement des chômeurs et des précaires dans notre pays, d'ailleurs entre parenthèses, sur la conditionnalité. Le RSA est, à nos yeux, la matérialisation d'un espèce de revenu minimum de survie, qui, je dis bien de survie, hein, parce que je rappelle que quand même avec un peu plus de 500 euros par mois, personne ne vit correctement. Et même si 609. Vous ajoutez à ça un peu, si vous ajoutez à ça un peu d'APL et la complémentaire santé solidaire, puisque je sais que c'est évidemment tout de suite ce qu'on va m'expliquer, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui un célibataire au RSA ne vit pas mieux qu'un célibataire au SMIC, qui au demeurant ne vit pas bien. Et c'est aussi toujours aussi, on revient toujours aussi au sujet du dessus.
Mais celui qui est au SMIC, il travaille.
On est d'accord. Alors d'abord, pour avoir été longtemps directeur d'un, ce qu'on appelle un centre d'accueil de jour, y compris des publics de rue, je peux vous dire que je n'ai à peu près jamais entendu quelqu'un qui est arrivé en disant « moi je veux le RSA et je veux pas travailler ». On est dans un monde où, bah d'ailleurs je trouve ça un peu dommage, mais on considère que si on n'a pas une activité, un travail, on n'est pas, d'ailleurs on parle bien, retrouver la dignité par le travail. Moi je considère d'abord qu'un être humain il est digne par lui-même, mais on vit dans une société qui pense ça, et les chômeurs, les précaires, les allocataires du RSA, puisque c'est dont on parle, pensent exactement la même chose. Donc si évidemment on me dit au lieu que les gens soient RSA, on va leur permettre de travailler avec un emploi digne, payé dignement, j'ai aucun problème, et eux non plus d'ailleurs n'auront aucun problème avec ça. Le seul sujet c'est que là on dit vous avez un droit, car j'appelle que le RSA est un droit, c'est-à-dire que je n'ai plus d'activité, je n'ai plus aucun revenu. La société me donne un minimum, c'est un droit. Or, conditionner ce droit, ça veut dire que, alors, je répète, si on va dans le RSA condition, on va faire travailler des gens, de fait, gratuitement, puisque, d'abord, on va les faire travailler sans acquérir de droit. Je rappelle qu'au RSA, on ne cotise à rien, on ne cotise pas à la retraite, on ne cotise d'ailleurs pas au chômage, et pour cause, on ne cotise effectivement à rien. Et derrière, si on fait travailler ces allocataires au RSA, on va leur faire faire quoi comme boulot? On va leur faire faire la sortie des écoles? C'est déjà aujourd'hui des contrats aidés. Ça veut dire qu'on va transférer des contrats aidés vers des allocataires du RSA.
Il y a des pénuries dans plein de secteurs. Donc
et vous allez mettre des allocataires du RSA demain en disant tiens, allez donc faire le serveur dans un hôtel restaurant.
Mais peut-être que tu peux leur faire une formation.
Ah, alors attention, mais là,
parce c'est quoi toi. Le A de RSA
Le RSA, c'est activité. Le I de RSA, c'était insertion.
Activité.
Le truc, c'est que pour ça, il faut avoir de l'activité abrosive, il faut s'occuper des gens. Moi, j'aime beaucoup ce chiffre qui a été mis là. Depuis que même à l'époque du RMI, créé en 1989, à l'époque déjà, tous les allocataires devaient être inscrits à l'époque à la NPE et on a fait le truc. Ça n'a jamais été le cas, d'abord y compris parce qu'aujourd'hui Pôle emploi, il n'en veut pas des allocataires du RSA. 40% d'allocataires, ça veut dire que vous allez remettre 60% d'allocataires du RSA dans Pôle emploi. La conséquence politique, c'est quoi? Vous allez faire exploser à nouveau les chiffres du chômage, on va arrêter de nous expliquer que le chômage baisse. Pôle emploi n'en veut pas, il ne sait pas quoi
d'accord,
en faire.
On peut peut-être aider les gens à retrouver un travail, Pierre-Édouard,
oui,
je comprends
mais
pas. Je
vous
comprends
ne mettrez pas,
en fait.
Ça ne marchera pas parce que vous. Non, mais là, mais aider les gens à retrouver un travail, oui. Et effectivement, c'est pour ça qu'en fait, quand on constate le détail, on n'est pas. On ne vous dit pas, vous allez bosser 20 heures et en échange, vous aurez votre RSA. En fait, on va vous intégrer dans un dispositif d'accompagnement. Ça, il n'y a pas de souci. Mais qu'on dispense le RSA sous condition, le RSA nécessite effectivement un travail d'accompagnement. Les gens sont sans emploi. Certains sont même extrêmement
éloignés. C'est la condition qui gêne.
Voilà. C'est la notion.
C'est le fait que ce soit.
C'est la notion de conditionnalité, parce que quand on dit ça.
Ça, voilà. Mais là, je comprends, parce qu'au départ, c'est vrai, je suis un peu comme Estelle. Je comprenais pas trop, parce que j'ai lu une histoire en préparant ce thème, où c'est vrai qu'une personne disait, bah moi j'ai trouvé ça formidable de retrouver un petit peu le terrain pour avoir un petit peu ce goût du travail, ça m'a redonné envie, parce que cette personne se sentait un petit peu endormie par le fait de rester sans rien faire avec le RSA
et sans solution,
et parfois,
bien sûr,
et sans solution. Ben
voilà.
Donc j'avais trouvé que l'histoire était intéressante. J'avais pas Enfin, il m'avait pas semblé en préparant ce débat qu'il s'agissait de dire le RSA, on vit bien avec le RSA, c'est formidable ou quoi que ce soit, mais que ça pouvait être évidemment.
Alors, si, il y a plein de gens qui disent ça.
Non, mais la notion de conditionnalité, j'entends bien qu'elle te gêne, et effectivement, c'est plutôt gênant. Mais que ça puisse, bah tiens, fais-le. Mais tu sais, c'est pas mal si pendant 10 heures dans la semaine, ça représente quoi, 15 heures dans la semaine par jour. C'est 2-3 heures.
2 heures sur 7 jours.
Voilà. Où tu vas un peu au contact du travail, tu retrouves goût déjà à la sociabilité, au fait de sortir et tout. Hein. Je trouvais que c'était intéressant. Donc j'entends ce que tu dis, mais je voyais pas réellement ce qu'il y avait de totalement négatif là-dedans. Sauf si on lui dit, si tu vas pas, je te le retire.
Alors c'est ça. Emmanuel Dancourt.
Ce qui a été le cas dans certains départements d'ailleurs. Ce qui semble ne pas être le cas dans l'expérimentation.
Oui, parce que là, en plus, c'est une expérimentation, c'est plutôt intéressant. Oui.
Exactement.
Non, mais je vous en prie, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant, parce que Pierre-Edouard, tu as une analyse de sachant, très approfondie. Moi, je suis plus sur l'exemple. Je sais très bien de quel exemple tu parles, Daniel. Il s'agit d'une dame qu'on a mis dans une cantine et qui fait le ménage. Elle est passée au journal télévisé cette semaine, et puis elle était dans pas mal d'articles. Et elle, dans son cas, elle, je comprends, c'est une femme assez jeune, qui a l'énergie, le corps pour, etc. Et elle, ça a été un retour à l'emploi. Et je comprends l'intention qu'il y a derrière. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que ça ne peut pas concerner tous les RSA. J'ai quelqu'un au RSA dans ma famille qui a des gros problèmes physiques et qui ne vit pas bien du tout. Hein, on ne va pas se mentir, le frigo est vide. Hein. Puis 3 enfants, quoi. Mais tu ne peux pas remettre tout le monde au travail. Et c'est ça qui m'a intéressé dans ce qu'a dit Paul. À un moment, il n'a pas dit juste un RSA sans condition. C'est quelqu'un, si tu lui donnes pas.
Tu le laisses comme ça. En fait.
Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce qu'a dit Paul, c'est l'accompagnement. On va reprendre contact avec tous ceux qui ont le RSA, si j'ai bien compris. Et on va voir où ils en sont, on va reprendre contact. Mais moi, j'aimerais bien entendre que dans certains cas, ça va pas être possible le retour à l'activité.
Oui, mais quand tu parles quand tu parles de quelqu'un de ta famille et qui peut pas revenir à l'activité, à l'activité. Oui, mais si on l'aide, si on l'incite,
des problèmes médicaux. C'est des problèmes médicaux assez graves qui fait que cette personne a déjà du mal à faire ses courses.
Là, c'est particulier.
Il va falloir embaucher du monde à Pôle emploi. Hein, parce qu'on va parler d'un bon million de personnes qu'il va falloir réaccompagner. Parce que c'est bien de dire on accompagne les gens. Ça veut dire qu'il faut mettre des gens en face. Aujourd'hui, aujourd'hui, le problème, c'est aussi pour ça que beaucoup de conseils généraux ne veulent pas y aller. Parce que derrière, il y a évidemment des problèmes politiques et des problèmes de gros sous. C'est que l'État dit aux départements, parce que c'est les départements qui ont, entre guillemets, la tutelle des allocataires du RSA, l'État dit, c'est le fameux projet France Travail, c'est ça la grande maison qu'on veut faire au-dessus, dit au département on va faire France Travail, en gros les départements c'est vous qui allez payer mais vous allez faire comme moi je veux et surtout vous allez embaucher les gens pour les accompagner parce qu'évidemment accompagner les gens ça veut dire qu'il faut remettre en face. Or aujourd'hui les départements disent très bien mais on paye comment, qui les paye ces gens-là? Et donc il y a encore en plus un effet de marché de dupes, on met les gens au RSA au milieu en disant il faut les accompagner, alors il faut les accompagner très bien, on va le mettre sous condition pas bien, mais dans les deux cas il y a aussi un énorme problème, c'est qui on met en face, quelle structure, quelle personne on met pour effectivement accompagner les gens. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse de l'État qui fait des grands moulinets, mais qui ne met pas en place les moyens nécessaires.
Et au-delà de ça, moi, la question, j'ai une amie qui est au RSA, qui est dans un métier qui est journaliste, et qui cherche du boulot. Elle fait pas semblant, elle cherche du boulot. Pour l'instant, elle a que le RSA pour survivre. Je la vois pas, franchement, parce que toi, tu parlais des métiers en tension, des métiers où personne veut aller, finalement. Enfin, quand t'as une vocation dans le médical, qu'est-ce que tu vas aller faire un boulot pour lequel t'es pas formé, que t'as pas envie de faire, parce que toi, t'as envie de retrouver dans ta branche, quoi.
Je suis désolée, moi, ça me pose question. Mais là se pose un problème. C'est-à-dire que si jamais tu trouves pas de boulot, qu'il y a pas de boulot, pas de boulot, si ta copine elle est journaliste et qu'effectivement elle ne trouve pas de boulot, que ça fait 2 ans, 3 ans qu'elle trouve pas de boulot, enfin à un moment se pose la question de est-ce que tu préfères vivre au crochet de l'État alors que tu es parfaitement apte à travailler parce que le boulot ne te plaît pas, ou est-ce que tu te dis je vais peut-être faire une formation puis je vais éviter de vivre au crochet de l'État puis je vais travailler. Ça aussi c'est une question quand même, Emmanuel, en fait. Oui, à un moment, bah, dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut, quoi. Et, oui, mais, parce que là, c'est pas des problèmes de santé. Ta copine, c'est parce que, simplement, elle estime qu'elle a envie de faire ça, mais si ça marche pas, elle va attendre 20 ans à attendre une pige. Alors, ça, le problème.
Alors, d'accord. Là, on est dans un cas très particulier, parce que c'est quelqu'un dont la réputation a été tuée par une affaire judiciaire célèbre. Oui, ça, donc voilà. Donc, il y a vraiment des cas. Moi, ce qui me gêne dans l'histoire, c'est le 100%.
C'est pas quelqu'un qui a pas envie de bosser.
C'est pas quelqu'un qui a, mais c'est, ce qui me gêne, c'est le 100% des cas.
Ils existent, mais ils sont rarissimes.
Non, mais que t'aies une passion pour un
ceux
métier,
qui veulent pas
tu
bosser.
Veux pas en faire un autre,
oui,
j'entends.
C'est
mais tu peux au moins faire des formations.
Oui, je suis assez d'accord, c'est anecdotique ceux qui veulent pas bosser.
Ceux qui veulent pas bosser, c'est une anecdote. Alors évidemment, Macron, qui n'est pas une ordure, et tous les autres politiques adorent effectivement nous sortir le cas, mais j'ai l'habitude moi de répondre, moi aussi on va tous me sortir trouver une grand-mère de 100 ans qui a fumé toute sa vie. On m'expliquera jamais, aucun médecin va m'expliquer que pour jusqu'à 100 ans il faut fumer. Donc, on me trouvera toujours. Voilà, mais je veux dire, c'est un mythe. On est dans une société où le poids de l'emploi est tellement. Mais c'est pareil sur la formation.
Combien de personnes qui reçoivent le RSA?
Le RSA, on est à, j'espère pas dire de bêtises, je crois que. J'ai peur de dire une bêtise.
On va chercher
parce que j'ai peur de dire une bêtise.
C'est réellement une anecdote. Vraiment, hein, je te crois si tu me le dis. Le gars qui refuse d'aller au travail parce qu'il se dit de toute façon ça ne me plaît pas, je n'ai pas la formation adaptée pour, et je vais me contenter de ça en glandant chez mes parents ou à droite à gauche.
3,8 millions.
C'est ça. Oui.
Oui, c'est énorme.
Il faut absolument qu'on remette ces gens au travail parce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi.
Et là-dedans, tu vois qu'on a 60% qui ne sont pas considérés comme étant chômeurs. Quand on dit que le chômage baisse, on t'en enlève 60%.
Évidemment.
Et sache que
c'est pas ma
3 millions 8...
C'est 5,8% de la population française.
C'est ça. Et 3 millions 8, ça n'est en fait que 65% des gens qui y auraient droit. Il y en a 35% de plus qui ne le demandent pas.
Et t'as aussi plein de gens qui sont au RSA, mais ça dure un an et puis après ils retrouvent un boulot. On n'est pas au RSA à vie, et ça aussi il faut le dire. Et il y a plein de gens qui se battent pour trouver un emploi et qui font des formations. On est avec Patrick qui nous appelle de Francazal en Haute-Garonne. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, Patrick. Est-ce que pour vous il faut verser le RSA en échange, allez, on va dire d'une activité, d'une formation ou encore d'un travail?
Moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée.
Alors, d'accord.
Pour moi, effectivement, le RSA, c'est pour aider les gens. C'est fait partie de la France ne laisse pas les gens sur le carreau. Donc, on a du social en France. C'est génial. C'est super. Il faut le garder. Il faut le garder. Il faut aider les gens qui sont vraiment, qui sont dans la misère, dans la merde, qui sont malades. Le problème, c'est qu'effectivement, on voit bien que l'enveloppe, notre enveloppe budgétaire, on a de plus en plus de difficultés. Il va falloir à un moment, pour garder les aides sociales et qu'on continue à aider les gens dans la misère et dans les qui ont des problèmes, il va falloir à un moment, effectivement, à tous les points, il va falloir aussi voir ceux qui abusent. Alors, bien sûr, c'est anecdotique sur 3, et quelques millions, mais ça représente certainement au moins quelques centaines de milliers de personnes. Moi, dans mon entourage, il y a beaucoup de gens, j'habite près des Pyrénées, c'est des régions comme la Lozère et tout, et il y a énormément de gens qui ne travaillent pas par conviction. Beaucoup, hein, beaucoup, c'est pas qu'un peu. Hein. Donc, il y a un moment, effectivement, le RSA, pourquoi il devrait être versé à vie? Alors, on aide pendant 2 ou 3 ans les chômeurs qui ont perdu un emploi totalement normal. Ensuite, le RSA prend le dessus. Effectivement, le RSA pourrait être versé pendant 3, 4, 5 ans. Et ensuite, si une personne ne reprend pas un emploi, c'est bien souvent soit elle a vraiment un handicap, elle est malade. Donc, dans ce cas-là, ces gens-là ne sont plus RSA, deviennent soit travailleurs handicapés, soit malades longue durée. Dans ce cas-là, ces gens-là méritent bien plus que 500 et quelques euros, je sais plus de combien est le RSA. Il faut beaucoup plus aider les gens qui ont vraiment un problème physique ou autre, mental ou malade. Mais par contre, les personnes qui ont fait un choix de vie, qui ont décidé de ne pas travailler, c'est un choix. Et la société ne doit pas maintenir à vie et au vita aeternam des indemnités à des gens qui ont fait un choix. Donc moi, je mets bien... Par contre, je suis pour aider beaucoup plus les gens qui qui ont des
qui ne peuvent pas travailler.
Des réels problèmes. Voilà. Mmh. Voilà. Donc, on donne un peu moins à ceux.
Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Patrick. Hein. Ça mériterait une étude, une reprise en main de tous les allocataires.
Ben, en fait, c'est ça. Ce que vous dites, Patrick, c'est qu'il faudrait aller presque au cas par cas sur les 3 800 000. Ben oui, mais allocataires du RSA,
et voir. Pour le coup, sur l'accompagnement, il faut le mettre justement plutôt dès le début. Vous savez, nous, on s'est beaucoup battu parce que à Pôle emploi, quand vous vous inscrivez, vous pouvez des fois attendre 3 mois, 6 mois, 9 mois avant de voir votre conseiller pour la première fois. Or, on sait bien de manière statistique que plus on s'active vite, moins on a été de temps chômage, plus on trouve du boulot facilement. La courbe, elle est absolument phénoménale. Et donc, c'est surtout au début de la perte d'emploi, alors y compris des fois, ça peut être des drames, y compris des drames personnels. Hein. Parler d'une usine Buitoni qui ferme, c'est les gens, je vais être au chômage, comment je paye la maison, c'est tout ça qui va derrière. Mais c'est effectivement au début qu'il faut mettre le paquet, parce que quand vous avez été éloigné de l'emploi, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je ne sais pas s'il y en a de mauvaises, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, évidemment que le retour à l'emploi, il est encore plus difficile. Et qu'en plus, quand sur votre CV, on voit ça, vous êtes ultra discriminé pour l'embauche. On dit, il n'a pas bossé depuis 5 ans. Même si les gens sont pas mal intentionnés, votre CV, il va passer derrière celui qui a perdu son boulot il y a 3 mois.
Oui, ça c'est malheureusement une évidence. Des messages également, Paul, sur l'application RMC.
Oui, ce message de 7, déjà que Pôle emploi n'aide réellement que 10 à 15% des inscrits. Si on leur envoie le RSA, en plus, ça va être le carnage. Il faudrait déjà accompagner 100% des inscrits. Et après, on verra pour cette mesure. Et ce message de Chris, je trouve l'idée de demander aux demandeurs du RSA de travailler en contrepartie bonne. Cela va permettre aux allocataires de s'intégrer dans la société, de découvrir de nouveaux métiers et aussi de verser le RSA à ceux qui veulent vraiment se réinsérer.
On est avec David qui nous appelle des Côtes d'Armor, qui nous appelle du Vieux-Bourg et qui est au RSA justement. Bonjour David.
Oui, bonjour Estelle.
Alors c'est très intéressant de vous avoir David, parce que justement vous êtes au RSA. Est-ce que vous accepteriez David de toucher le RSA sous condition, c'est-à-dire d'avoir une activité pendant 15 heures par semaine ou une formation?
Tout à fait, c'était le but de mon appel. Et alors si je peux me permettre Estelle, je fais une petite aparté. Déjà je suis très heureux de vous avoir, c'est la première fois que je me permets d'appeler.
Vous faites bien.
Je fais un petit bonjour à tous vos intervenants, parce qu'en plus c'est les trois que j'adore.
Ah bah écoutez, merci.
Et un petit bonjour à Daniel, et s'il peut passer un petit bonjour à Géraldine, voilà.
Ok David, ce sera fait tout à l'heure.
Message personnel. Ouais,
non, mais sans arrière-pensée. Hein,
Ok David, ce sera fait.
Est-ce que je peux vous demander, David, c'est peut-être très indiscret, vous me répondez si vous le souhaitez, si vous ne voulez pas, vous ne me répondez pas. David, pourquoi est-ce que vous êtes au RSA? Qu'est-ce qui vous est arrivé pour être au RSA aujourd'hui?
Alors, je vais résumer, mais ça va être très compréhensif, je pense. En fait, j'ai 30 ans de maçonnerie derrière moi, donc je ne pense pas être un feignant. Et puis, en fait, il s'est passé il y a quelques années, un choix personnel, je voulais me reconvertir. J'ai décidé d'arrêter la maçonnerie pour me lancer dans mon nouveau projet. Et ensuite, il m'est arrivé un accident, deux accidents personnels, on va dire. D'accord. Un maladie et un divorce.
D'accord.
Voilà. Qui est toujours pas réglé et qui se passe très mal. Et donc, de par le fait, en fait, j'ai tout perdu. J'ai perdu logement, voiture, tout ça, et je me suis retrouvé SDF. Là, aujourd'hui, ça va mieux dans le sens où j'ai réussi. Je vis dans une caravane, donc je me plains pas. Mais tout ça pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, je suis complètement, moi, d'accord avec le fait que le RSA soit sous condition.
D'accord.
Parce que moi, dès que j'ai entendu parler de cette mesure qui pourrait s'appliquer, je me suis réinscrit à Pôle emploi, patati patata, après que je sois sorti de la rue, en fait, je me suis réinscrit à Pôle emploi.
Absolument. Vous avez vécu ça comme presque, si je comprends bien, vous avez vécu ça presque comme une forme d'espoir, parce que vous vous êtes dit, si on me dit ça, ça veut dire qu'on va m'aider à retrouver du travail.
Complètement.
Ah d'accord, je comprends la démarche. Ok.
Complètement. Et je trouve même que après, même au sens moral, je trouve que c'est une très bonne chose, dans le sens où je pense qu'en France on est suffisamment bien aidé, et donc je trouverais normal que quand on profite de l'argent public, que on puisse contribuer un petit peu. Je pense que c'est la moindre des choses. Donc, pour revenir sur mon cas personnel, j'ai beaucoup insisté auprès de ma conseillère pour l'emploi en disant bon ben écoutez moi je veux trouver moi quelque chose, enfin moi je veux participer, je veux qu'on me trouve 10, 15, 20 heures de boulot par semaine pour justement éventuellement apprendre quelque chose ou pour justement repartir sur mon idée de reconversion. Et donc sauf que en fait, j'ai chaque fois des portes fermées dans le sens où, ben non, on n'est pas prêt, on ne sait pas faire.
Mais donc là, le nouveau dispositif vous aiderait en fait. C'est ça que vous dites, David, c'est que pour le coup, là, vous seriez vraiment aidé et vous pourriez peut-être réaliser votre projet. David, on va en profiter. En plus, vous êtes très drôle. Qu'est-ce que vous cherchez comme boulot là dans les Côtes d'Armor?
Ah mais à la limite, moi, je pour le coup, si c'est pour le alors, si je veux revenir à mon idée de reconversion, en fait, à la base, je voulais ouvrir un food truck.
D'accord.
Parce que je suis un passionné de cuisine.
Bah, super. Donc, en fait, attendez, c'est un métier où il manque de main en plus.
Voilà. J'ai fait les choses dans l'ordre en demandant à la base une formation de base en cuisine. Sauf que pour espérer une inscription à une formation de cuisine, il faut simplement déjà avoir un stage d'intégration à l'entreprise.
D'accord.
Sauf que je n'arrive pas à trouver ne serait-ce qu'un stage d'une semaine. De par plusieurs raisons, parce que alors déjà bon, je suis à mobilité réduite dans le sens où j'ai pas de véhicule.
Ah oui, mais ça vous avez raison d'en parler. Bah oui, c'est évidemment c'est un frein, c'est sûr que quand on n'a pas de véhicule et dans les Côtes d'Armor en plus c'est compliqué. Ça c'est il y a pas beaucoup de transports en commun quoi.
Voilà, là où je suis en plus je suis en plein cœur des terres, je suis au milieu de Saint-Brieuc et Guingamp.
Je vois tout à fait David. Non mais c'est je veux pas dire que c'est un no man's land,
mais au pays des crêpes, là vous êtes vraiment en plein milieu des pays des crêpes.
Mais il y a même pas un bus. Il y a même pas un bus si tu veux rouler. C'est en tracteur, mais c'est horrible.
C'est exactement ça. C'est pour ça que je savais, Estelle, que vous saviez à peu près la localisation.
Bah, tout à fait, oui. Bah, oui. Donc, et David, on va vous aider. Voilà, même si ce n'est pas un food truck, mais au moins, il doit y avoir pas mal de restos dans les Côtes d'Armor. Et au moins pour cet été, ils cherchent toujours de la main-d'œuvre pour vous aider, David.
On ne peut pas avoir des restaurateurs qui nous appellent régulièrement pour dire qu'ils ne trouvent pas de main-d'œuvre.
Bah, bien sûr, mais David, voilà, vous êtes dans les Côtes d'Armor.
Il y a un problème.
Vous n'êtes pas motorisé, mais vous avez votre permis, David.
Ah oui, je l'ai depuis l'âge de mes 18 ans et j'ai toujours eu mes 12 points.
Alors si vous êtes restaurateur, si vous avez besoin de main d'œuvre dans les Côtes d'Armor, il y a David, il est super, drôle.
Et comment il fait pour nous contacter, le monsieur?
On nous contacte sur RMC et nous on transmet à David, on va prendre ses coordonnées et puis on va tout faire pour vous aider.
Et
David,
si jamais ça marche, je veux le savoir.
Exactement, et vous nous donnez des nouvelles, David.
D'accord, merci beaucoup, c'est très gentil et encore bravo à votre équipe.
Merci David.
Et merci David et bon courage pour la suite. Vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, le cas de David est extrêmement révélateur. C'est là où on voit que, parce qu'on dit toujours les gens au RSA. On a l'impression qu'en fait tout le reste fonctionne, puis juste ils n'ont pas de boulot, pas de revenus, ils ont le RSA. Mais non, c'est des vies entières, c'est des situations personnelles. Et à un moment, et en plus il est passé par la rue, donc là on est vraiment au stade, j'allais dire, l'extrême de la précarité. On voit à un moment la maladie, le problème familial et boum la rue. Et c'est là où on voit qu'on est dans des situations globales et qu'on peut pas juste traiter en disant il y a les gens au RSA comme si tout le reste allait et qu'en fait c'était juste faut les mettre au boulot. Et je trouve là-dessus que le témoignage, bravo à la régie, je trouve que le témoignage est particulièrement éclairant et au demeurant la demande d'accompagnement et d'être aidé, c'est-à-dire lui ne demande pas à rester dans sa caravane et attendre que le temps passe. Oui. Vous aurez noté j'ai réussi à sortir de la rue en revenant dans une caravane. J'aimerais qu'on analyse tous bien ça quand on a un toit sur la tête. Enfin c'est quand même ça, je trouve que ça fait relativiser beaucoup de choses.
Mais vous avez bien raison, Pierre-Edouard. Et le problème, effectivement, alors il a parlé de divorce. Il y a beaucoup de divorces qui se passent mal, effectivement, qui mènent à des situations insoutenables. Et puis également, il a parlé du manque de moyens de locomotion. Et ça, bien sûr, quand
la mobilité est un drame.
On est rarement au RSA, c'est pire qu'en ville. À Paris, 6e arrondissement. Hein, donc,
être au RSA à Paris qu'en pleine campagne.
On est entièrement d'accord. Malheureusement, c'est souvent la plupart du temps en pleine campagne. Et c'est des régions où il y a pas de transport commun.
Il y avait un autre petit souci. Il avait vraiment pas un accent breton.
Il n'y a pas d'accent breton. Donc la Bretagne est une terre de gastronomie.
Il avait un accent du sud et il est en Bretagne.
Il a changé de mer.
On va terminer avec Johan qui nous appelle des Ardennes, Bonny sur Meuse et qui est éducateur spécialisé. Bonjour Johan.
Bonjour.
Bonjour. Alors vous. Bonjour. Bonjour Johan, vous côtoyez beaucoup de gens au RSA, Johan, en tant qu'éducateur spécialisé. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure justement?
Alors, en tant qu'éducateur spécialisé, oui, mais je suis surtout président d'un centre social. Donc,
d'accord.
Je suis partie d'une entreprise sociale, enfin bref, okay. Une association qui accompagne les bénéficiaires du RSA sur le territoire. Alors, suite à un marché public du département, hein, on est vraiment sur quelque chose d'établi, des choses qui sont établies sur tous les départements, je pense, en France. C'est le contrat d'engagement pour les bénéficiaires du RSA. Il y a toujours eu un contrat mutuel. Et en fait, on fait des accompagnements de 300 personnes en file active par mois. Donc, ça veut dire à l'année, vous imaginez. Donc, on a au moins toujours 300 personnes à l'accompagnement. Et en fait, l'idée de dire, c'est qu'il y a déjà énormément de demandes qui sont faites aux bénéficiaires du RSA et déjà des choses qui sont posées depuis très longtemps et qui ne sont pas d'aller travailler, forcément, effectivement. Il y a tellement de freins à lever, comme vous l'avez tous dit depuis tout à l'heure, que c'est assez compliqué. Mais en fait, il y a déjà des choses d'établies et je trouve que c'est un peu, comment dire, c'est un peu encore un leitmotiv, enfin un petit slogan qui est envoyé, Monsieur Macron, lors de la dernière
présidentielle,
essayer de leur proposer dans son programme, et ça fait un petit flop parce que pour l'instant il y a rien qui est encore établi sur ce.
C'était le problème de Valérie Pécresse notamment. C'était le programme de Valérie Pécresse.
Mais ça n'a jamais été mis. Ça n'a jamais été mis en place.
Parce
qu'il y a déjà des choses et qu'on est face à des gens qui sont extrêmement éloignés de l'emploi. Nous, on a un escalier d'accompagnement vers la réinsertion. C'est-à-dire qu'on a déjà trois dispositifs différents qui ramènent de plus en plus vers l'emploi. Ceux qui finissent chez nous, ils vont en chantier d'insertion. Ils bénéficiaient des contrats aidés qui ont été supprimés en grande partie ces dernières années. Et ça permettait de faire déjà des approches d'emploi avec des accompagnements spécifiques. Et donc, c'est un peu facile de parler tout de suite de l'emploi. Effectivement, les problèmes de mobilité, moi, dans les Ardennes, ancien territoire métallurgique, en déshérence, on a 20% de gens qui n'ont pas de niveau CAP, qui n'ont même pas ce niveau-là. Oui. Et donc, effectivement, on est quand même, c'est un peu facile. C'est juste ça. C'est un peu facile. Et il y a plein déjà de dispositifs. Et territoire zéro chômeur aussi, je voulais vraiment vous dire.
Oui, bien sûr. Et Pierre-André-Edouard en a parlé, évidemment. Mais, ce que vous dites est effectivement intéressant. Ça sent quand même la fausse bonne idée. C'est-à-dire que tout le monde se dit, ah oui, c'est malin. Mais, voilà, l'idée, c'est de les accompagner et de former. Mais trouver un emploi tout de suite, ça paraît effectivement, très compliqué. En tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter.
Alors.
D'Estelle Midi, travailler pour toucher le RSA. D'accord, pas d'accord.
Eh bien, c'est très, très, très partagé. On peut parler de votre fameuse marge d'erreur, puisque d'accord à 52%, pas d'accord à 48%.
Ouais, donc c'est quasiment une égalité.